RFI minuit 30 à Paris, 22h30 en temps universel.
Afrique Soir sur RFI.
Afrique Soir avec Sylvie Derouet, bonsoir.
Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. À la une de cette édition, la Guinée et la fin des opérations de recensement sur le territoire national. 5 jours supplémentaires accordés aux Guinéens de l'étranger. Le recensement doit servir à confectionner le futur fichier électoral. Le géant français de l'uranium, Orano, dénonce le projet de nationalisation par le Niger de sa filiale Somaïr. Des divergences en République démocratique du Congo avant la signature de l'accord de paix entre Kigali et Kinshasa, prévu la semaine prochaine à Washington. L'opposition congolaise critique, vous l'entendrez, l'accord préliminaire. Le Rwanda, la principale opposante, arrêtée hier, Victoire Ingabire, soupçonnée d'avoir joué un rôle dans une affaire de déstabilisation de l'État en 2021. À Madagascar, une fête spirituelle s'est tenue ce vendredi. L'ethnie Sakalave du Ménabé, implantée sur la côte ouest de la Grande Île, a sacré son nouveau roi. Et ce sera le dossier d'Afrique Soir. Vous entendrez le souverain. Mission accomplie pour Hugues Fabrice Zango. Le triple sauteur burkinabé termine deuxième du concours de la Ligue de Diamants de Paris au stade Charletti. Enfin, musique avec le Festival des Musiques Nawa qui se poursuit à Essaouira. En Guinée, les opérations de recensement se sont donc officiellement achevées sur le territoire national. Les Guinéens résidents à l'étranger vont bénéficier de 5 jours supplémentaires. Le recensement est capital, il doit servir à confectionner le futur fichier électoral avant d'aller au référendum constitutionnel en septembre. Et bien que la diaspora ait encore 5 jours pour se faire enrôler, les opérations rencontrent d'ores et déjà de nombreux dysfonctionnements. Exemple, en France, où résident 55 000 ressortissants guinéens, Sidi Yansané.
Ce matin à Paris, c'est la 4e fois qu'Alpha Ibrahim se déplace pour se faire enrôler. Pour l'opération, les services consulaires de l'ambassade de Guinée se sont installés dans une église du 18e arrondissement, insalubre et inadaptée selon Alpha Ibrahim, qui n'a toujours pas pu se faire recenser à cause de kits biométriques insuffisants et un personnel laxiste d'après lui.
Je suis venu à 5 heures. Très tôt le matin. Les gens même, ils dormaient à même le sol. Des gens qui venaient de Limoges, de province, bref. Des bébés dans des poussettes, dans le 18e en 2025. Mais c'est un truc de fou. Je vis en France depuis 30 ans, j'ai jamais vu ça. C'est-à-dire que tout est fait pour ne pas que la diaspora vote, au fond.
À l'autre bout du pays, à Marseille, Cheikh Doucouré est encore plus remonté. Lui qui a perdu plusieurs journées de travail et qui déplore que rien ne soit fait pour les personnes plus âgées.
Le problème, c'est qu'ils ont envoyé un appareil, alors que Marseille est la 2e plus grande ville de la France. Et le ministre menace les Guinéens. Ils ont dit, si vous ne vous faites pas enregistrer, ben vous n'aurez plus de papier ou ceci ou cela. Et c'est ce qui me met en colère, en fait.
En effet, en déplacement à Cancan, fin avril, Mori Kondé, ministre de l'Urbanisme et proche du président de transition Mamadi Doumbouya, avait demandé au syndicat de transporteurs de prendre uniquement des voyageurs munis de leur récépissé d'enrôlement et promis que les dépouilles de ceux qui bouderont l'opération n'auraient pas le droit d'être enterrées dans un cimetière.
Au Niger, le divorce est consommé entre les autorités et la société française Orano. Le Conseil des ministres nigériens a annoncé la nationalisation de la société des mines de l'Aïr, la Somaïr, société qui a démarré l'exploitation de l'uranium il y a plus de 50 ans et qui est détenue à 63,40% par Orano. Eh bien, cela fait l'objet d'un contentieux important depuis bientôt 2 ans. Orano, présent dans le nord du Niger depuis 71, dénonce dans un communiqué une étape supplémentaire dans la volonté des autorités de l'évincer du pays. Lisa Fabian.
Dans son communiqué, Orano dit s'élever contre la politique de spoliation des actifs miniers, je cite, en violation des accords Lyon-le-Groupe et l'État du Niger. L'entreprise française indique qu'elle entend réclamer la compensation de l'ensemble de son préjudice et faire valoir ses droits sur le stock correspondant aux productions de la Somaïr à date. Plus de 1300 tonnes d'uranium sont toujours conservées au Niger, un stock estimé à 250 millions d'euros par Orano. De son côté, Niamey reproche à Orano de ne pas avoir respecté la règle de partage prévue dans l'entente et d'avoir exporté plus que sa part. Autre point de désaccord, l'arrêt des travaux d'exploitation depuis juillet 2023, le rapatriement de ressortissants français sans préavis ou encore la déconnexion du système informatique de la Somaïr du réseau global du groupe. Orano précise se réserver le droit d'initier toute action complémentaire nécessaire, notamment pénale, y compris contre des tiers en cas de préemption de la matière.
Lisa Fabian sur RFI. On reste au Niger où le dossier de Moussa Tchangari a été présenté devant la cour d'appel de Niamey ce matin. Le collectif d'avocats qui représente Moussa Tchangari, secrétaire général d'Alternative Espace Citoyen, a plaidé la nullité de la procédure. Il avait été inculpé d'atteinte à la défense nationale et de complot contre l'autorité de l'État. Il est actuellement détenu à la prison de Filingué. C'est à 180 km de Niamey. Le délibéré est attendu le 4 juillet prochain. Des divergences en RDC avant la signature de l'accord de paix le 27 juin à Washington entre Kigali et Kinshasa. Signature avant une possible rencontre au sommet en juillet en présence de Donald Trump et peut-être d'autres chefs d'État africains. L'opposition congolaise, elle, critique l'accord préliminaire à Kinshasa. Pauline Azidi.
Le docteur Denis Mukwege dénonce le caractère opaque et non inclusif de cet accord qui viendrait légitimer le pillage des ressources naturelles et contraindre la victime qui m'a aliéné son patrimoine national en sacrifiant la justice en vue de garantir une paix précaire et fragile. Une opacité qui interroge le camp de l'ancien président Joseph Kabila qui ne s'affiche pas pour autant contre cette initiative. Ferdinand Cambéré est le porte-parole du PPRD.
Mais jusque-là, toutes les initiatives, nous ne pouvons contester aucune tant que ça tend vers l'intégrité du territoire, la souveraineté et la protection de la population. Voilà ce que nous disons.
Pour le PPRD, il faudra en discuter pendant un dialogue intercongolais. Le dialogue national, c'est aussi la priorité de Martin Fayulu. Si Prince Epenge, porte-parole de la Mouka, voit des aspects positifs à cet accord, il fait part de certaines inquiétudes.
Mais ce qui inquiète et ce qui dérange les Congolais, c'est le fait que certains points de cet accord ne perçoivent, ne considèrent le Congo que comme un immense gisement, une mine à ciel ouvert d'où l'on viendrait exploiter les minerais qui vont alimenter les industries minières au Rwanda.
En revanche, pas de position officielle encore du parti de Moïse Katumbi qui doit se réunir ce samedi pour évoquer le sujet, ni du camp de l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito qui attend de connaître le contenu des différentes discussions pour se prononcer. Pauline Azidi, Kinshasa, RFI.
Et au Rwanda, voisin, la principale opposante au président Kagame a été arrêtée hier. Victoire Ingabire est soupçonnée d'avoir joué un rôle dans une affaire de déstabilisation de l'État, ce qu'elle a nié en bloc lors de sa comparution devant la haute cour. Paul Lorgerie.
Selon un communiqué du bureau d'enquête du Rwanda, Victoire Ingabire est poursuivie pour association de malfaiteurs et incitation publique à s'opposer au gouvernement. Lorsque la nouvelle de l'arrestation lui est parvenue, l'opposant Bernard Taganda n'a pas tardé à se rendre au domicile de la prévenue pour constater les faits.
On a terminé la perquisition vers 21h30, 21h45. Donc 21h45, on l'a amené.
L'opposante de 56 ans est citée dans l'affaire Sylvain Sibomana, ancien secrétaire général du précédent parti de Victoire Ingabire. Avec 8 autres personnes arrêtées en 2021, il est accusé d'avoir organisé des réunions. Leur objectif présumé, le renversement du pouvoir. Victoire Ingabire est soupçonnée d'avoir joué un rôle dans l'organisation de ces réunions avec ses sympathisants, ce qu'elle nie en bloc. Un cirque motivé politiquement qui n'est pas le fruit du hasard, selon Ian Edwards, l'un de ses avocats internationaux.
Sa peine allait prendre fin en octobre de cette année. Elle a reçu une grâce présidentielle en 2018 et jusqu'à la fin de la peine de 15 ans, la possibilité existe toujours pour les autorités d'annuler la grâce présidentielle et la remettre en prison.
La prochaine audience de Victoire Ingabire a été fixée le 7 juillet prochain.
Et au Burundi, où la Cour constitutionnelle a validé aujourd'hui les résultats des législatives du 5 juin, résultats qui donnent tous les sièges de l'Assemblée à la formation au pouvoir depuis 20 ans, a annoncé le parti vainqueur malgré des irrégularités dénoncées par l'opposition et par l'Église catholique.
Bangui,
99.8 FM.
Nous avons parlé sur RFI de la mise en œuvre d'un accord signé il y a 2 mois entre les autorités centrafricaines et les rebelles des 3R et de l'UPC, accord qui prévoit la réintégration des 2 grandes rébellions à l'accord de paix de 2019. On a expliqué également que ces réunions ont eu lieu en ce moment au niveau local entre chefs rebelles, autorités civiles, les Russes de Wagner. Et hier, une de ces rencontres particulièrement symboliques a eu lieu dans le centre du pays. François Mazé.
Cette rencontre s'est déroulée à Maloum, à une 50 kilomètres de Bambari, dans la Waka. Des photos ont circulé. On y voit un des principaux chefs militaires de l'UPC, le général Amadou Bungous, et ses hommes, posés avec ceux de Wagner, menés par Dmitri Podolsky. Dmitri Podolsky est une personnalité centrale dans le dispositif russe en Centrafrique car il a un rôle de conseiller à la sécurité à la présidence de la République, donc directement auprès du président Touadéra. Alors que des tractations ont lieu entre Moscou et Bangui pour faire évoluer le dispositif russe dans le pays, aller vers un remplacement de Wagner par Africa Corps, cette rencontre montre l'implication directe de Wagner dans les tractations en cours avec les rebelles, rappelant que le groupe avait déjà joué un rôle clé lors de la conclusion de l'accord de Khartoum en 2019. Des réunions de ce type ont lieu ces dernières semaines dans plusieurs régions du pays. Elles ont pour but de s'assurer de cesser le feu au niveau local, de permettre la libre circulation des rebelles, dans l'attente de l'organisation de leur cantonnement et de leur désarmement qui n'ont pas encore commencé. Selon les autorités centrafricaines, l'UPC devrait disposer de 8 sites de regroupement et 6 autres pour les hommes des 3R.
Le Tchad, une nouvelle attaque contre un village dans le sud hier soir. Des hommes armés ont ciblé le village d'Orégomel qui se trouve à quelques kilomètres de Mandakao. C'est là où une 40aine de personnes ont été tuées au mois de mai. Il pourrait s'agir d'un acte de vengeance. Le bilan actuel est de 17 morts et de 17 blessés. Plusieurs représentants de l'État se sont rendus sur place ce matin. Des suspects auraient été arrêtés. Et puis au Kenya, la société civile s'apprête à commémorer les victimes de la répression des manifestations contre la loi de finances. C'était en juin dernier, il y a 1 an. Pendant plusieurs semaines, les jeunes étaient descendus dans la rue. Le 25 juin, ils avaient même réussi à entrer dans le Parlement. D'après les organisations de défense des droits de l'homme, la répression policière du mouvement a fait plus de 60 morts et les familles des victimes ont souhaité s'exprimer. Gaëlle Alex.
Kennedy a 12 ans le 25 juin 2024 quand il part chercher un livre d'école chez un ami. Kennedy ne rentrera jamais à la maison. Il sera touché par une balle perdu tiré par la police. Jacinta Nyango, sa mère.
J'ai regardé une vidéo sur TikTok, quelqu'un qui transportait un corps sur une moto. Il criait, ils ont tué un enfant. J'ai vu ça sur le téléphone d'un ami et là, j'ai reconnu mon bébé. Une fois à l'hôpital, j'ai retrouvé mon fils dans un frigo, mort. J'ai besoin qu'on rende justice à mon bébé.
For my baby. Tom a perdu son frère dans les mêmes circonstances à Gitourai, dans la banlieue de Nairobi, où des échauffourées avaient éclaté en marge des manifestations. Sans nouvelles pendant plusieurs jours, c'est finalement à la morgue que Tom retrouvera son frère.
À la morgue, j'ai vu mon frère. Il était simplement allongé, une balle dans la tête. Du sang coulait. C'était tellement traumatisant. C'est encore très dur, surtout pour ma mère. On a tout conservé dans la maison. Ses vêtements, les souvenirs. C'est très dur pour elle et pour nous.
Depuis 1 an, les familles des victimes demandent justice en vain. Janja Maina, leur avocate.
Aucune arrestation n'a eu lieu pour le moment. L'inspection générale de la police continue d'enquêter. Nous n'avons aucune idée d'où ils en sont. On leur en parle tous les 15 jours. Et ils nous répondent, soyez patients, on rassemble des preuves. Et ça fera bientôt 1 an. C'est très préoccupant pour nous.
Pour rendre hommage aux victimes de la Mandamano, un rassemblement pacifique est prévu à Nairobi le 25 juin. Gaëlle Alex, Nairobi, RFI.
Antananarivo, 96 FM.
Le dossier d'Afrique nous emmène à Madagascar où s'est tenue une fête spirituelle riche en émotions. Vendredi, l'ethnie Sakalav du Ménabé, implantée sur la côte ouest de la grande île, a sacré son nouveau roi. Il s'agit de Georges Area Kamam, vous l'entendrez d'ailleurs dans quelques instants. Il est l'arrière-petit-fils du roi Touer, chef du peuple Sakalav, décapité par l'armée coloniale française en 1897. On revient sur cette journée très particulière avec Sarah Tetto.
C'est par deux coups de fusil que la cérémonie d'intronisation a démarré ce matin. Deux tirs pour avertir l'univers de l'arrivée d'un nouveau souverain. Très vite, les habitants des environs ont afflué aux côtés d'invités de marque, notables, princes et princesses d'autres ethnies, vers la rive du fleuve Tiribine, au son des chants et musiques sakalaves, pour assister au rite de l'onction des ancêtres. Georges Kamam, tout de rouge vêtu, s'est ensuite rendu au tombeau royal, raconte-t-il.
On est rentré dans ce temple, s'incliné devant les 11 reliques de nos aïeux, et on m'a mis face à un zébu. Et c'est là que une personne du collectif royal habilité à tenir un sabre a évoqué un par un mes aïeux défunts en tapant sur le zébu. Et c'est juste après ça que le peuple a crié « Nous avons un nouveau roi ».
Des cris, des larmes et surtout une joie intense et profonde, confie Bertrand Ranier, membre du collectif royal Sakala.
Le moment le plus marquant de cette journée, c'est quand nous avons hissé notre roi au rang d'Ampanite, celui qui tranche, quand nous l'avons aiguisé à la manière d'une lance pour le rendre fort et qu'il puisse transpercer l'univers.
La cérémonie s'est poursuivie jusqu'à la tombée de la nuit, au rythme des chants sacrés et des tambours, jusqu'à ce que les portes du tombeau soient refermées par les dadis, les intercesseurs des défunts souverains, comme pour marquer l'ouverture d'une nouvelle page. Sarah Teto, Antananarivo, RFI.
Et nous allons écouter le roi Georges Kamami, qui a été choisi, il a 61 ans. Il a quitté sa terre natale à 20 ans pour obtenir son diplôme d'officier de la marine marchande en Russie. Puis il a poursuivi sa carrière en France. Il revient donc accomplir son destin sur la terre de ses ancêtres. Et il raconte tout cela à Sarah Teto.
Vous savez, j'habite en France depuis une quarantaine d'années et semble-t-il que le peuple sakalave du Ménabé attendait mon retour, attendait ce sacre. Cette décision qui semble un peu étrange peut-être pour les résidents à Madagascar a surpris tout le monde. Pourquoi un prince qui est absent depuis des décennies est légitime pour diriger le peuple sakalave? Moi, je n'ai pas la réponse. Ça, c'est la décision des sakalaves. Hein.
Et cette décision des sakalaves de vous choisir, vous, Georges Kamam, fils, a été guidée, dites-vous, par les dadis, les esprits des ancêtres, qui vous protègent aujourd'hui.
Oui. En fait, dans la croyance sakalave, quand les rois meurent, ils ont un pouvoir d'habiter ou de posséder une personne avec qui la famille vivante a une occasion de communiquer, de demander des bénédictions. Avant même que je quitte la France, les esprits des ancêtres étaient toujours là à éclaircir ma venue à Madagascar, à m'écarter de tous les dangers, à me bénir, à prier tous les jours pour que cette intronisation se fasse dans une atmosphère de quiétude, de paix et de sacralité.
Depuis ce matin, vous êtes donc devenu ce qu'on appelle un ampanite, un roi. Quelles vont être vos fonctions exactement dans un pays, on le rappelle, qui compte encore différents royaumes traditionnels, mais qui est officiellement une république démocratique depuis 1960?
Qu'est-ce qu'on attend d'un roi sakalave en 2025, à la veille de la restitution? C'est de faciliter dans les rites traditionnels le retour de ces trois crânes sakalaves suivant strictement les rites de la culture sakalave.
Autrement dit, sauvegarder, préserver, hein, c'est ça l'authenticité de l'identité historique et spirituelle des sakalaves.
Voilà, déjà sur le respect du contact avec les reliques, même le souverain n'a pas le droit de toucher les reliques. Il y a des gens qui sont habilités à toucher les reliques, notamment les porteurs de reliques. Il y a aussi ce qu'on appelle les pitouka, c'est-à-dire un initié pour évoquer l'esprit des trois souverains avant le départ de Paris. Ça, c'est très important dans la culture sakalave. Donc, moi, la famille, le collectif royal sakalave, espère que parmi les membres du comité mixte qui iront jusqu'à Paris, il y aura trois porteurs de reliques, un pitouka, c'est-à-dire le maître de cérémonie traditionnel, et deux ou trois membres de la famille royale.
Ampanite ou Georges Kamam, merci beaucoup.
Voilà Georges Kamam avec Sarah Teto à Madagascar. L'année 2024 est la plus chaude jamais enregistrée au Maroc. Ce record s'inscrit dans la tendance du réchauffement climatique mondial. Hélas, le royaume chérifien fait face à sa 7e année consécutive de sécheresse avec un déficit pluviométrique moyen de moins 24%. De l'athlétisme à présent avec la Ligue de Diamants et le meeting de Paris qui se tenait ce vendredi soir au stade Charletti. On attendait tout particulièrement Hugues Fabrice Zango, le Burkinabé au triple saut. Lui qui annonçait que cette saison était la dernière de sa carrière. Il tenait à briller une dernière fois à Paris. Alors même si le véritable objectif de la saison reste les championnats du monde de Tokyo en septembre, il a tenu parole avec un quatrième essai mesuré à 17 mètres 21. Il prend la deuxième place du concours derrière le Jamaïcain Jordan Scott. Hugues Fabrice Zango satisfait.
Ça a été beaucoup plus à l'ego, à l'honneur, à plein de trucs hein, ici. C'est vrai qu'on est encore en plein cycle d'entraînement et forcément on n'est pas encore affûté. Mais vraiment là, il fallait envoyer quelque chose.
Vous l'avez ressenti là sur ce quatrième essai, l'adrénaline des grands concours, parce qu'on était absolument encore en dessous de 10, 17 mètres et là ça y est, c'est revenu.
Oui, absolument. Vous savez, dès que les gars ils ont commencé à balancer 17 et une deuxième, une troisième personne, je me suis dit, mais je ne peux pas rester en retrait quand même, ce n'était pas possible. Et donc, je suis allé chercher des choses en fait, qui étaient bien enfouies, voilà, que j'avais oublié, des sensations. J'ai pris quelques risques, en fait, des risques par rapport à ma forme de maintenant, quoi, je veux dire. Et donc, c'est sorti 17-21. Je pense que la saison a enfin commencé.
Vous ne gagnez pas le concours, mais c'est tout comme.
Ah, bah absolument. Franchement, repasser 17 mètres. Les mettre au défi, je pense qu'ils ont compris. Rendez-vous à Monaco.
Voilà des propos recueillis par Frédéric Sutou. Vous écoutez RFI, c'est Afrique Soir, il est minuit 50 ici à Paris. Nous allons écouter à présent le premier volet d'une série de reportages dans le territoire de Mahagi. C'est une région rurale dans l'est de la République démocratique du Congo. Elle se trouve à la frontière de l'Ouganda et au milieu des montagnes, sur les rives du lac Albert, coule la rivière Kakoï. La rive ouest est perturbée par la présence de groupes armés. La rive est, elle, est plutôt paisible. Elle n'a jamais connu d'attaque. C'est un fait rare hein, qui mérite d'être souligné dans l'est de la RDC où sévissent plus d'une centaine de groupes armés et les habitants s'y sentent même protégés par cette rivière mystique de Kakoï, Coralie Pierret.
Là, nous sommes devant la rivière Kakoï, qui est une rivière qui se jette dans le lac Albert en contrebas. Aujourd'hui, il y a de l'agitation parce qu'on est jour de marché. Les motos traversent très lourdement chargées de produits vivriers comme des boissons, des légumes, du poisson.
Je m'appelle Wiroto Mongui Jackson. Je suis taximoto et je suis en train de livrer le chargement. Ce sont des boissons sucrées.
Et vous allez livrer ça de l'autre côté de la rivière ?
Non, je n'ai pas l'habitude de traverser parce qu'il y a de mauvaises nouvelles qui nous arrivent de l'autre côté.
En contre-haut de la rivière, côté est, une multitude de villages densément peuplés. Ici, pas de groupe armé, même les rares policiers n'ont pas d'armes. Les habitants se sentent protégés grâce, disent-ils, à Kakoï, des pouvoirs attribués à cette rivière que les habitants préfèrent garder secret et que l'un des chefs de groupement de la zone, Louis Lokodjo, détaille brièvement.
Kakoï, c'est infranchissable.
Ça veut dire infranchissable.
Infranchissable. Ces groupes armés, ils ont peur. Puis c'est... Si ils songent à venir, par exemple, avec la guerre, la rivière devient infranchissable. Ça se gonfle ou ça peut changer la couleur aussi.
Et donc, il y a, de ce côté de cette rivière, il n'y a jamais eu d'attaque?
Non. Nous sommes bien ici.
Depuis 2019, beaucoup fuient les attaques de la Codeco qui sévit du côté ouest de la rivière, rappelle Grégoire Toumito, le coordinateur local de la société civile de la chefferie de Mokambo, séparée en deux par la rivière Kakoï.
On constate vers l'ouest de la chefferie l'absence de l'autorité de l'État, parce qu'on constate que les autorités locales comme les chefs de village, les chefs de groupement ne vivent pas dans leur milieu, et même la police qui s'est aussi déplacée. Et compte tenu des attaques répétitives, la population s'est déplacée pour vivre à l'est.
Au total, 19 camps officiels et 6 informels sont dans la zone, habités par des dizaines de milliers de déplacés. Coralie Pierret, de retour de la chefferie de Mokambo, RFI.
<t'-> Et là, nous sommes au Maroc et on va faire escale à Essaouira, ville mythique collée à l'océan Atlantique. C'est là que se tient ce week-end le festival Gnawa, 26e édition. Une festivité traditionnelle, séculaire, thérapeutique, qui mêle le chant, la musique, la danse, un patrimoine de l'Afrique qui était en train de disparaître il y a 30 ans. Plongé dans la transe Gnawa avec notre envoyé spécial à Essaouira, Guillaume Thibault.
Pour pénétrer l'univers Gnawa, il faut ce son, cette vibration basse du Gembri. Cette tradition mystique qui aujourd'hui rayonne et fait la fierté d'un peuple reste néanmoins méconnue, une part de magie, estime le chanteur de Marrakech, Fed Ben Chemsi.
C'est archaïque et magique. Là, la magie, elle est qu'on a 5 siècles de creux dans l'histoire des Gnawa, du 15e au 20e. Dans les vagues d'esclavage qu'il y a eu, ils étaient ou esclaves ou soldats, contre leur gré, bien entendu. Personne ne détient la vérité sur les Gnawa. Si un jour vous rencontrez quelqu'un qui vous dit « je sais », il ne sait pas, parce qu'il n'y a pas de vérité.
Le Maalem Abdel Slam Ali Khan est le coprogrammateur du festival, un doyen qui porte et défend les valeurs de la tradition, notamment la valeur thérapeutique de la musique.
La tradition Gnawi, quelqu'un qui est malade, ou donc, s'il y a quelque chose comme ça, on fait une parade pour inviter les gens, et les esprits, et la vie, et tout ça. Ça, c'est une histoire, c'est une culture, c'est quelque chose qu'on ne peut pas, on peut pas sortir de notre cœur.
Patience et persévérance ont permis à Essaouira et à la culture Gnawa d'être classée au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Un joyau à partager, estime Abderrahmine Barthey, le directeur général de la Société de développement local Essaouira, culture, art et patrimoine.
Gnawa, c'est un patrimoine universel, donc ça appartient à tout le monde. Vive la culture, c'est grâce à la culture qu'on arrive à comprendre l'autre, que l'autre arrive à nous comprendre, on vivra ensemble.
Spiritualité, partage, respect, ADN de l'identité Gnawa, comme sur ce titre interprété à Essaouira sur la grande scène Moulay Hassan par le Maalem Hamid El Kasri et la chanteuse Abirel Abed.
Essaouira, le festival des musiques Gnawa, demain samedi 21 juin. C'est l'été, c'est la fête de la musique, c'est le solstice. Trois concerts au programme, Ali Keita, Anas Chili ou encore Sima Fin, qu'on aura l'occasion d'en reparler. Merci de nous avoir suivis, merci à toute l'équipe d'Afrique Soir. À la réalisation ce soir, Raphaël Lazizi. Restez à l'écoute de la radio du monde et merci de votre fidélité.
Merci, Tuaklariko, Sambroka.
Carrefour du Maghreb.
Les défis de Nouakchott.
Juliette Rangeval.
Le dynamisme de la capitale mauritanienne est aussi une fragilité. Créée à la fin des années 50, la ville compte aujourd'hui plus d'un million d'habitants. Alors comment écrire l'avenir de cette ville vulnérable, sortie des sables et menacée par la montée de l'océan ?
Carrefour du Maghreb avec Juliette Rangeval, tous les samedis à 11h10 TU sur RFI. En sol majeur, Yasmine Chouaki.
Avec Khalidou Sy, longtemps correspondant au Burkina Faso pour France 24. Il nous revient en journaliste engagé avec le documentaire Yambo Wologem, la blessure. L'histoire de cet écrivain malien, prix Renaudot 1968, puis disgracié jusqu'au bannissement.
En sol majeur, Yasmine Chouaki.
Dimanche à 15h10 TU et en podcast sur RFI.fr.